L'atome de savoir sur Radio Campus Paris. On parle de science sans en faire un fromage.
Qui dit nouvelle saison dit nouveau sujet. Les vacances sont finies depuis bien longtemps et pendant que vous sirotiez une limonade sur la plage, nous, à l'atome de savoir, on se pressait le citron pour vous trouver des sujets originaux. Alors ce mois-ci, on vous propose de penser au modèle amoureux et à la sexualité de demain. Après tout, depuis 100 ans, les relations amoureuses et sexuelles ont changé, la norme n'est plus la même et les lignes risquent encore de bouger. Bonsoir Agnès Giard.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue, chercheuse à l'université Paris-Nanterre et l'université libre de Berlin, où vous travaillez sur la transformation technologique de l'intimité au Japon dans le cadre du projet M-Tech. Vous avez aussi travaillé sur plusieurs ouvrages. Le dernier s'intitule « Amour augmenté » aux éditions Terrain 75 et vous tenez le blog des 400 Q. Avec vous, nous allons parler d'un endroit où l'amour et le sexe sont très liés à la technologie, le Japon. En milieu d'émission, ce sera la classique actu scientifique de Vadim. Et avant de se quitter, vous aurez droit à une nouvelle chronique avec un nouveau chroniqueur. Bonsoir Simon.
Salut Gaspard, bonsoir à tous.
Alors, de quoi vas-tu nous parler ?
Alors, à chaque émission, je vais tenter de répondre à la question « Comment progresse la science ?». Et pour ça, je compte faire appel à des philosophes des sciences. Et un des éléments qui les sépare et qui m'intéresse particulièrement, c'est la division entre ceux qui pensent que la science progresse par continuité, par accumulation progressive de savoir, et ceux qui estiment que la science progresse avec des ruptures, des changements complets d'approche. À chaque émission, donc, je m'intéresserai à un penseur qui propose une réponse à cette question « Comment progresse la science ? »
Alors, à tout à l'heure, Simon, tout de suite, c'est Jade qui va nous aider à se mettre dans le bain de notre sujet du jour.
L'atome de savoir sur Radio Campus Paris.
La recherche de stimulation sexuelle existe depuis la nuit des temps. Et ce n'est pas rien de le dire lorsqu'on pense que le premier vibromasseur existe depuis 40 ans après Jésus-Christ, alors qu'aucune technologie n'existait à cette époque. Cléopâtre en serait à l'origine, utilisant un rouleau de papyrus rempli d'abeilles pour profiter de leur bourdonnement. Mais depuis cette époque, je vous rassure, les avancées en matière de sextoy n'ont pas cessé, et on en retrouve aujourd'hui de plus en plus, toujours un peu plus complexes. Par exemple, Womanizer se sert de la technologie d'air pulsé pour stimuler le clitoris sans vibration. En plus d'être plus sophistiqués, les sextoys se sont aussi démocratisés. Il est désormais courant de voir des sponsorisations sur YouTube ou Instagram de créateurs de sextoys ou de revendeurs. Les tabous se lèvent et on ne peut que croire que les recherches vont de facto s'intensifier. Mais pour aller jusqu'où ? C'est la question que se posent certaines séries dystopiques, telles que la fameuse Black Mirror, qui, dans plusieurs de ses épisodes, met en scène des relations sexuelles entre ses personnages et des robots en tout point similaires à des hommes. Les personnages, plus que d'avoir de simples relations sexuelles avec les robots, ont aussi une histoire d'amour. Mais est-ce qu'on n'y est pas déjà ? Parce que si les poupées sexuelles existent depuis longtemps, un cap a été franchi avec la création d'Harmony, qui est la plus avancée, technologiquement parlant, des poupées sexuelles. En 2016, la société américaine Real Doll a développé cette poupée sexuelle qui utilise l'intelligence artificielle pour communiquer et réaliser des actes sexuels. En plus, elle se veut dotée d'une mémoire qui lui permettrait de se rappeler de ce qu'aime son partenaire, enfin propriétaire, entre deux relations sexuelles. Cette poupée personnalisable se vend quand même à plusieurs milliers d'euros. Ces technologies ont un impact dans la société, et cet impact est totalement différent selon les cultures. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui.
Agnès Giard, rebonsoir. Je rappelle que vous êtes anthropologue, spécialiste du Japon contemporain. Et d'abord, merci beaucoup d'être avec nous ce soir depuis Genève.
Merci.
Alors, pour commencer, puisque vous êtes plutôt spécialiste du Japon, je vous demanderais à quoi ressemble l'industrie des sextoys au Japon par rapport à ce qu'on connaît, nous, en Occident.
Alors, c'est assez spécial. Le discours en Occident concernant l'industrie des sextoys, c'est un discours de bien-être, d'hygiène du couple, le piment qu'on va ajouter à la vie conjugale. Au Japon, c'est totalement différent. Alors, pour vous donner quelques exemples, quand des Japonais vendent un masturbateur, comme par hasard, le masturbateur est une sorte de cylindre en plastique transparent, une sorte de tubulure dans laquelle on encastre son pénis, à l'intérieur duquel se trouvent deux mains jointes. avec des ongles manucurés, etc. Enfin, c'est très joli. Et les mains glissent le long de votre pénis, hein, de bas en haut, dans un geste un peu de prière, hein, ou d'offrande. Enfin, c'est assez curieux. Et évidemment, ce type de masturbateur est vendu comme une forme de relation un peu au sacré, puisque d'une certaine manière, votre pénis est offert à l'adoration d'une femme invisible dont on ne verrait plus que cette forme de main jointe. Et beaucoup d'autres objets existent sur le même modèle, qui est assez poétique en fait, et qui repose systématiquement sur la rhétorique du sacré. Donc, par exemple, évidemment, le produit d'appel dans les sex shops au Japon, ce sont les vagins jetables, qu'on appelle là-bas des ona hole, des trous à onanisme. Hein. Onanisme, ona, onanisme, et hole, trou. En fait, ce sont des fourreaux cylindriques en élastane, en silicone, enfin, dans des élastomères qui sont dérivés de l'industrie des implants, donc qui sont compatibles avec les muqueuses. Et ces petits fourreaux reproduisent la sensation de la chair. Alors, ils coûtent vraiment pas cher. Ils s'en vendent entre 1 et 1,5 million d'exemplaires par mois. Donc, c'est une industrie absolument fantastique. Et ils font entre 6 et 12 cm de longueur. Donc, ils tiennent bien dans la main. Et ils sont fabriqués avec un petit design à une extrémité. Donc, un design d'anus, de vulve ou de bouche. Et à l'intérieur, il y a des plis, il y a des picots, il y a des palpeurs, et surtout, il y a des chambres pressurisées qui exercent une forme de succion sur le pénis, donc c'est vraiment irrésistible. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces tubes, en fait, sont capables littéralement de simuler la sensation d'une traversée. Donc, on nous invite à traverser Onahol, à faire une sorte de pèlerinage, et les fabricants de ces produits détournent eux aussi très fréquemment le vocabulaire religieux, et les fiches techniques qui sont sur les boîtiers rappellent souvent que le produit est capable de vous faire atteindre l'extase ou la révélation. Donc en fait, quand on pénètre dans ces objets, c'est une aventure, hein, c'est, on ne le fait oui. pas, c'est à vos risques et périls. Ils sont constitués de sas qui jouent le rôle symbolique de porte et de carrefour. Et le fait de passer à travers est souvent apparenté à une forme de dissolution du moi. Il y a même des vagins qui sont vendus avec des slogans d'appel, des slogans commerciaux qui disent « vous allez vous désagréger dans ce labyrinthe ». Donc, ils proposent vraiment une expérience de mort symbolique. Et chaque rencontre sexuelle avec ces vagins jetables est mise en scène comme un récit initiatique constitué d'épreuves qui vous rapprochent toujours plus de l'anéantissement d'une certaine manière. Donc ça c'est assez intéressant parce que les récits initiatiques au Japon présentent cette particularité de montrer, généralement c'est des moines, hein, les héros, des moines bouddhistes, qui veulent atteindre, obtenir quelque chose. Et en fait, quand leur voyage s'achève, ils s'aperçoivent que ce qu'ils désiraient si ardemment n'a aucune valeur. Donc, en fait, le récit initiatique s'achève par le renoncement à l'objet de désir. Et l'image du vagin jetable est lui-même profondément empreint de cette image du renoncement, puisqu'il va falloir le jeter après être mort et après être ressuscité symboliquement à l'intérieur. Voilà, c'est univers sacré qui est convoqué, mobilisé dans l'industrie des sextoys japonais.
Alors effectivement, il y a une philosophie qui est profondément différente de celle qu'on connaît, nous, en Europe. Et d'ailleurs, bon, pour nous, en Europe, c'est très peu courant, mais on observe chez certains un attachement aux objets sexuels. Comment se développe cet attachement à ce qu'on appelle en Europe une poupée sexuelle, mais qu'on appelle au Japon une poupée d'amour, qui est une nuance importante, intéressante. Quel est le public visé par ce type d'objet ?
Alors, effectivement, la différence entre le vocabulaire utilisé dans les médias occidentaux est vraiment flagrante. C'est-à-dire, on parle de poupée sexuelle, généralement, pour désigner ce qui au Japon est appelé love doll, c'est-à-dire love doll, poupée d'amour, et de façon extrêmement importante dans le sens où ce sont les pires sextoy qui puisse exister au monde selon les propres termes des fabricants qui sont horrifiés quand on leur demande hein, si leur produit, leur fille, enfin eux, ils les appellent leur fille, peuvent procurer du plaisir. Ils disent, mais oui, bien sûr, mais enfin, c'est un peu dommage. C'est un objet qui coûte extrêmement cher, hein, jusqu'à 7 000, 8 000 euros. Qui est très, très compliqué à déplacer, à bouger, à habiller, à déshabiller, etc. C'est lourd, c'est inerte, ça ressemble à un cadavre. Donc, c'est épouvantablement compliqué de faire l'amour à une love doll. Et les fabricants disent, nos poupées, en fait, correspondent à un projet qui est beaucoup plus subtil. Il ne s'agit pas de faire un sextoy, il s'agit de faire une poupée d'accompagnement, une présence, un être qui est là et qui attend, qu'on peut mettre dans n'importe quel endroit d'une pièce et qui va littéralement l'habiter comme une sorte de fantôme, en fait. Elle est là pour des hommes qui sont essentiellement des hommes qui veulent rêver, d'autre chose, d'une autre vie possible. Et elle est d'ailleurs designée de telle manière qu'il soit impossible de croiser son regard. Elle est designée sur le modèle des poupées, des statues de Bouddha, qui ont la focale des yeux dirigée à 3 ou 5 mètres, de telle manière que, quel que soit l'endroit où l'on se place devant la statue et donc devant la poupée, son regard vous traverse. En fait, il n'y a pas de communication possible avec la poupée, pas plus qu'avec une statue qui, d'une certaine manière, est plongée dans son monde intérieur et vous invite à la suivre dans une sorte d'au-delà ou de dimension supérieure.
Et donc, ces poupées touchent plutôt un public d'hommes, Agnès Giard.
Oui, parce que les hommes sont présentés au Japon comme des personnes qui ont besoin de rêves et d'amour, à la différence des femmes qui, soi-disant, auraient tellement les pieds sur terre qu'elles ont juste besoin de plaisir sexuel, comme les homosexuels, me dit-on. Alors, c'est assez curieux comme type d'analyse. Ça renverse de façon assez réjouissante la dichotomie habituelle et caricaturale, finalement, de l'homme en mal, de jouissance, par opposition à la femme qui, en Occident, est considérée comme un être fragile, en besoin de tendresse et d'intimité. Donc là, au Japon, très souvent, les fabricants de love doll m'expliquent qu'ils fabriquent des poupées en forme de femme parce que les hommes sont des enfants qui veulent qu'on leur offre de la chaleur et des mirages.
Alors oui, c'est très différent par rapport à ce qu'on voit en Europe, et quelque chose qu'on a vu arriver dans les années 2010, ce sont les maisons closes avec des poupées sexuelles à la place des classiques prostituées. Et aujourd'hui, on n'en entend plus du tout parler, alors qu'est-ce qu'ils sont devenus ces établissements, Agnès Giard ?
Donc, on a parlé d'un boom de façon un peu excessive. Évidemment, tous ces bordels n'ont eu aucun succès. Et au Japon, on le savait très bien, puisque au Japon, le phénomène date de 2003. Le Japon a été le premier pays touché par cette idée selon laquelle, idée totalement mythique, sur laquelle les poupées pouvaient devenir des objets rentables en termes de mise sur le marché pour du grand public. C'est-à-dire où on pouvait, d'une certaine manière, convaincre des clients de se succéder sur le corps d'une poupée mise à disposition, soit en location dans une pièce où elle attend, donc l'équivalent d'une maison close, soit l'équivalent des escort girls, la poupée livrée à domicile ou livrée dans des chambres d'hôtel directement pour une, deux heures ou trois heures. En fait, au Japon, ce phénomène a d'abord beaucoup de succès. Et évidemment, il suscite également dans les médias une sorte de floraison d'articles plutôt favorables qui disent que voilà, c'est bien de mettre des objets de luxe à la portée de tous, ça démocratise l'accès à une sexualité qui est jugée plus humaine, plus propre. Et puis, évidemment, c'est bien parce que les femmes ne sont pas exploitées, etc. Et de fait, au début, ça marche. C'est-à-dire que assez rapidement, le territoire japonais se couvre littéralement de milliers et de milliers d'enseignes qui s'appellent tantôt Cream Doll, Little Lover, Angel Kiss, Doll Fantasia, Doll Paradise, etc. Et les patrons sont ravis de pouvoir annoncer que avec juste 4 poupées qui ont coûté environ 4 600 euros pièce, ils les ont rentabilisées en un mois seulement. Ils font payer 100 euros pour une séance de 70 minutes. Et puis, en gros, elles travaillent pour rien 24 heures sur 24. Alors, au début, tout le monde y croit. Et puis, en fait, assez rapidement, il s'avère que ça ne marche pas du tout. Les clients ne reviennent pas. Et parfois même, certains, furieux, mettent en ligne sur Internet des commentaires furibonds en disant qu'ils n'y sont pas arrivés du tout. Parce qu'ils étaient venus pour voir, d'abord attirés par la curiosité, etc. Ils pensaient que ça allait être très excitant. Et puis, quand ils ont vu la poupée qui regardait le plafond, ils se sont demandé ce qu'ils faisaient là. Et effectivement, une fois que leur curiosité est assouvie, qu'ils se sont aperçus que c'est juste un objet et qu'avec un objet, rien n'est possible, les clients s'en vont, ils ont fait leur tour d'essai et c'est pas concluant du tout et puis c'est fini. Et donc en 2005, toute l'industrie s'effondre littéralement sur elle-même. Il y a une véritable, il y a un crack boursier des bordels de poupées qui met bien en scène l'illusion récurrente dans les médias selon laquelle on pourrait remplacer une femme de chair et d'os par des orifices. Plus ou moins bien imité. Ça, c'est vraiment absurde, cette idée que l'humain pourrait être remplacé par un objet et à terme, que l'humain, les poupées pourraient mettre en danger même la reproduction des humains entre eux. Cette idée, bien évidemment, fait la preuve de sa totale vacuité. Aucun réceptacle, aussi séduisant soit-il, ne peut fournir la réflexion en miroir que le client désire lorsqu'il fréquente une prostituée. Bien évidemment, il s'agit d'une relation sociale avant d'être une relation sexuelle. Il s'agit d'une relation imaginaire, d'une relation onirique. Quand on les interroge, d'ailleurs les propriétaires de poupées, on s'aperçoit qu'au départ, ils ne voulaient pas une femme. Ils voulaient le contraire d'une femme. C'est-à-dire que les vrais clients de poupées sont des personnes qui ne voient pas une femme dans la poupée. Ils voient un objet qui est un objet vide, creux, qui les confronte à la vacuité, à l'échec, à l'impuissance, à l'impossibilité de communiquer avec elle, dans la mesure où son regard est plongé dans le vague. Elle fixe des yeux quelque chose qui n'existe pas. Ses yeux sont aveugles, son expression est vacante, sa bouche muette. Il faut lui prêter une vie, il faut être capable de l'animer pour pouvoir l'aimer.
Donc, d'une certaine manière, la poupée matérialise la solitude de son propriétaire. Mais si des hommes choisissent la solitude, on ne peut pas dire que le développement des poupées au Japon freine la natalité ?
Il faudrait renverser la question. Revenir sur cette idée de choix. Il s'avère que les hommes qui achètent une poupée n'ont pas véritablement le choix, dans le sens où le modèle matrimonial au Japon empêche, en raison de la crise, un nombre croissant d'hommes de trouver une compagne. Alors, je vous explique. Depuis l'explosion de la bulle économique dans les années 90, les emplois étant devenus précaires et les salaires ayant chuté, les hommes qui parviennent à gagner au minimum 3 millions de yens par an, c'est-à-dire environ 4 millions de yens par an, c'est-à-dire environ 31 000 euros, ne sont plus que 15% dans la vingtaine et à peine 37% dans la trentaine. Et ces chiffres sont en baisse, c'est-à-dire qu'un nombre croissant de la population gagne en dessous du seuil Alors, non pas de la pauvreté, quoique, mais de la, du montant minimum requis pour épouser une femme. Donc, des millions d'hommes et des millions de femmes ne peuvent pas s'épouser. Et comme par ailleurs, il est pratiquement impossible de faire couple hors mariage au Japon, pour des raisons qui tiennent à des structures sociales encore assez fortes, qui stigmatisent les mères célibataires. Il n'y a que 2% d'enfants nés hors mariage au Japon. Eh bien, pour toutes ces raisons, les hommes et les femmes ne peuvent plus faire couple et manifestent leur détresse face à cette obligation, littéralement, de rester célibataire, face à cet empêchement de vivre à deux. Ils manifestent leur détresse en achetant des poupées qui sont des moyens d'entrer en résistance contre l'ordre social. Donc, vous comprenez bien, ça n'est pas à cause des poupées que la natalité baisse. C'est parce que la natalité baisse parce que le modèle matrimonial dominant, celui de l'homme pourvoyeur, celui qui soutient à bout de bras sa famille, et de la femme au foyer ou qui a un petit job très mal payé parce qu'elle a besoin d'être disponible pour élever ses enfants et pour s'occuper des parents de son mari, ça c'est le modèle dominant. Bien, ce modèle n'est plus du tout compatible avec la situation économique de la majorité des jeunes japonais. Donc, comment font-ils? Ils sont célibataires et ils protestent en vivant en couple avec des créatures artificielles. Alors, ça peut être des love dolls, mais comme ça coûte très cher, c'est plutôt minoritaire. Et puis, ça peut être des personnages numériques. Ça peut être des compagnons en téléchargement sur iPhone. Ça peut être des hologrammes aussi. On a vu le développement de la Gatebox, qui est une sorte de petit aquarium de 30 cm de haut, à l'intérieur duquel se trouve une épouse miniature qui peut vous parler, vous envoyer des emails, des petits messages, etc. Donc, tous ces gadgets sont actuellement développés au Japon, qui est devenu le pays pionnier dans la production de partenaires artificiels, au service donc d'une protestation collective contre cet état des choses.
Merci beaucoup Agnès Giard. Je rappelle que vous êtes anthropologue, spécialiste du Japon contemporain. On se retrouve dans un instant car il est l'heure de prendre des nouvelles de deux vieilles copines, la science et la technologie. Bonsoir Vadim.
Bonsoir Gaspard, as-tu déjà pensé à ce que tu choisirais entre la pilule bleue et la pilule rouge? Non, aujourd'hui on va clairement pas parler du nouveau Matrix, mais de Mr. Zuckerberg, qui a lui choisi la pilule rouge pour plonger dans le pays des merveilles. Enfin, son métaverse devrais-je dire. Métaveste, méta-quoi? Non, ce n'est pas le nouveau slogan du gouvernement contre le Covid, mais bien la nouvelle idée qu'a eu le patron de Fez doucement. Meta, oui, la maison mère de Facebook a même changé son nom pour l'occasion. Exit Facebook pour devenir Meta. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est un métaverse, c'est normal, je ne savais pas non plus avant la semaine dernière. Un métaverse ou méta-univers est un monde virtuel. Ici, il décrit une potentielle évolution d'Internet où, à l'aide de la réalité augmentée, l'utilisateur pourra avoir des interactions avec des éléments fictifs. Le F des GAFAM souhaite mêler réalité et virtuel avec l'aide d'hologrammes et de casques tels que l'Oculus Rift, dont Facebook a fait l'acquisition en 2014. Mais voilà, investir 10 milliards n'efface clairement pas l'ardoise, et le géant du numérique subit polémique sur polémique, comme par exemple le blackout Facebook du 4 octobre 2021. Une entreprise aux idées géantes, mais aux serveurs d'argile, et donc pour accompagner Facebook dans la formule future de l'atome de savoir, je vous propose un café.
Tu vas pas nous parler d'un méta-café quand même?
Non, mais presque. Des scientifiques finlandais ont eu l'idée de recréer, à partir de cellules de la plante de café, un café de laboratoire. En recréant ce café dans un milieu laborantin, cela permettrait d'aider écologiquement à éviter par exemple le défrichement de forêts tropicales ou de réduire le transport lié à l'exportation du café. En 2020, Singapour a même autorisé la vente de ce café éprouvette, à voir si après des tests approfondis, il sera produit et vendu à grande échelle.
L'atome de savoir, vous en reprendrez bien une part ?
Bienvenue si vous nous rejoignez dans l'atome de savoir. Ce soir, nous parlons de la place de la technologie dans les relations amoureuses et sexuelles avec Agnès Giard, qui est anthropologue et spécialiste du Japon contemporain. Rebonsoir Agnès Giard.
Bonsoir.
Alors, on a évoqué dans la première partie de l'émission le succès des poupées d'amour chez les hommes au Japon, et on va maintenant parler du succès des partenaires téléchargeables chez les femmes japonaises. Alors, on a vu émerger des jeux vidéo qui permettent d'avoir un petit copain numérique. Ces petits copains rencontrent un large succès au Japon. Comment vous expliquez cet engouement ?
Tout commence encore une fois avec la crise. Donc, on est dans les années 90. C'est l'explosion de la bulle économique. Et un jeu apparaît qui s'appelle Tokimeki Memorial en 1994. C'est la firme Konami qui le lance et tous les lycéens se mettent à le jouer. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui intègre un lycée et qui tente d'y réussir son cursus dans l'espoir qu'une camarade d'école, la super idole du lycée, lui accorde son cœur. Et dans le cadre temporel du jeu, la partie s'achève le jour de la remise des diplômes, c'est-à-dire 3 ans plus tard. 3 ans au cours desquels le joueur a croisé la route d'une dizaine de belles jeunes filles qui toutes sont potentiellement des partenaires disponibles. Tout dépend de ses choix, etc. Et donc, il est possible d'obtenir l'amour de chacune d'entre elles. Ce jeu va obtenir un succès énorme, un succès tel que les filles vont à leur tour vouloir leur version. Et elles vont l'obtenir assez rapidement. Donc, il y aura le Tokimeki Girl Side, avec des millions de consoles de jeux vendues, etc. Donc, le phénomène devient massif. Et pourquoi ? Parce qu'il met en scène la possibilité de maîtriser finalement le cours de son propre destin dans un univers parallèle. Dans ce monde-ci, dans notre réalité, rien n'est possible, tout est bloqué, la crise est telle qu'on est condamné à rester célibataire. Mais heureusement, il existe un autre monde. Un autre monde est possible dans lequel les joueurs, pour peu qu'ils apprennent à bien maîtriser les règles, peuvent obtenir une déclaration d'amour du personnage de leur choix et si possible de tous les personnages à la fois. Pourquoi pas, allons-y. Et d'ailleurs, le concept du harem va avoir énormément de succès, notamment auprès du public féminin. Les filles se mettent à développer des amours parallèles. Il y a des sortes d'adultères hein, qui se développent. Elles disent qu'elles ont ce qu'elles appellent des lignes de vie. Et certaines en ont plus d'une dizaine, c'est-à-dire que chaque jour, elles ont rendez-vous avec une dizaine d'amants, d'amoureux différents, au point que pratiquement une Japonaise sur deux a éprouvé de l'amour ou a entretenu une relation amoureuse avec un personnage numérique. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retombe toujours inévitablement avec ces jeux de simulation amoureuse sur l'idée du spirituel, puisque ces femmes vont dépenser beaucoup d'argent pour ces personnages, argent qu'elles nomment des offrandes, ofusé. Donc, elles dépensent du temps, de l'énergie amoureuse, pour des créatures qui leur échapperont à jamais et qui sont souvent apparentées à des êtres spirituels venus d'une autre dimension. À noter d'ailleurs que le premier jeu de simulation amoureuse pour femmes qui a été lancé s'appelait Angélique, par allusion évidemment aux anges.
Mais alors, pensez-vous que ce mouvement correspond à une période de transformation des codes de la société japonaise ? Ou pourrait-il se pérenniser et devenir la norme ? Qu'est-ce que ces joueuses et joueurs veulent faire de la société japonaise, d'après vous ?
Effectivement, ça correspond au désir de changer la société dans le sens où le modèle matrimonial de l'homme breadwinner, pourvoyeur, et de la femme au foyer n'est plus viable. C'est-à-dire que maintenant, il faut deux salaires, un peu comme en France. Hein. Il faut aussi que la femme puisse faire carrière, ce qui pour l'instant est impossible en raison de l'absence de crèche. Donc, on ne peut pas placer ses enfants ou alors il faut aller les chercher à 5 heures de l'après-midi. Compte tenu des temps, des distances à parcourir entre la maison et le travail, ça veut dire qu'il faudrait quitter en fait le travail vers 3h30, 4h. Enfin bref, tout est fait pour empêcher les femmes de mener une carrière équivalente à celle de leurs époux. Et les femmes veulent s'en sortir. Elles veulent que la société bouge et leur permette de s'épanouir professionnellement tout en étant en couple. Donc, comment faire ? Eh bien, c'est simple, en étant soi-même scénariste ou dialoguiste de jeux de simulation. C'est très intéressant, la plupart de ces jeux mettent en scène des hommes qui sont à la fois des princes charmants et des personnes extrêmement compréhensives, puisque le message récurrent, c'est « Ah, mais tu sais, je te laisserai faire ce que tu aimes, avec moi, ne t'inquiète pas, tu seras entièrement libre de travailler, etc. » Donc, c'est assez rigolo, ce sont des personnages qui accompagnent les joueuses et qui, en même temps, proposent de nouvelles modalités de relations conjugales.
Donc finalement, ces femmes surtout, qui jouent avec des petits copains numériques, elles sont en train de refuser les normes actuelles et peut-être d'en construire de nouvelles.
Oui, elles sont assez mal vues d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que le fait de fréquenter des personnages numériques ou des idoles virtuelles, etc., est considéré comme une forme de démission par rapport aux injonctions sociales. Finalement, ces nouvelles générations précipitent la nation tout entière vers l'extinction. Et en fait, pourquoi est-ce que ces jeunes le font, puisqu'ils sont stigmatisés quand ils le font ? Eh bien, parce qu'ils se sacrifient. Et c'est là encore où on retombe sur ce thème du sacré, c'est qu'ils se présentent, elles et ils, comme des renonçants, des personnes qui, à l'instar des moines, préfèrent avoir des liaisons dans une dimension impalpable et intangible avec des créatures qui n'existent pas ou qui n'existent que dans une sorte de flou, de vague, d'indéterminé, de surnaturel. Eux préfèrent dépenser tout leur argent, littéralement le jeter par la fenêtre pour des créatures qui de toute manière vont disparaître dans le cloud. Donc en fait, on est sans cesse dans une forme d'holocauste, d'auto-sacrifice au profit d'un futur très incertain. Et c'est assez admirable que cette démarche soit adoptée par des millions de personnes qui collectivement construisent leur identité sur la base de la mise à mort finalement des impératifs sociaux.
Mais alors il y a des hommes d'un côté qui se sacrifient par le biais des poupées notamment, on en parlait en début d'émission, et également des femmes qui, en fait, ces hommes et ces femmes ont la même démarche. Pourquoi rester toujours dans le sacrifice ?
Alors, effectivement, c'est une nouveauté. Beaucoup d'hommes et de femmes se sont aperçus qu'ils partageaient les mêmes passions et le même goût pour les mondes virtuels. Ils dénomment eux-mêmes otaku. Otaku est un mot assez difficile à définir Au départ, il désignait les monstres, les pervers, les personnes qui étaient incapables de nouer des liens dans la vraie vie, etc. Et puis progressivement, les gens se sont mis à revendiquer cette appellation, hein, qui est l'équivalent de PD, queer ou gwyn, de façon à renverser l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes. Donc, ils revendiquent cette appellation pour se rejoindre, se réunir, participer à des événements où ils se rencontrent. Et progressivement, on a assisté à l'apparition d'un phénomène nouveau, qui est celui des otakons, c'est-à-dire des mariages entre otaku, au point que des agences matrimoniales sont en train d'apparaître dans le quartier phare, le quartier culte des otaku, qui est Akihabara. Une des plus grandes agences matrimoniales pour otaku possède un immeuble presque entier à elle toute seule. Et son but, c'est donc de mettre en lien des personnes qui ont décidé de rénover l'amour, de rénover les relations hommes-femmes. Et c'est en train de marcher. Donc, il constitue une forme de contre-culture, littéralement. C'est-à-dire de culture à la fois de révolte, hein, et puis de propositions. Ils sont en train de proposer de nouvelles modalités conjugales. C'est assez intéressant.
Et est-ce que vous pensez qu'on peut voir arriver des mouvements comparables en Occident ?
Il y a bien sûr une contre-culture en Occident qui s'appuie aussi sur les produits exportés du Japon. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les personnes qui consomment ces produits remettent essentiellement en question les rôles de genre. C'est-à-dire que les hommes qui achètent des love dolls japonaises sont des hommes qui refusent l'assignation aux stéréotypes masculins de l'homme fort qui se remet en selle quand une femme l'a quitté, qui est capable d'encaisser, qui pleure pas, qui souffre pas, etc., qui serre les dents. Un vrai mâle. Eh bien, ces hommes-là disent, ben non, voilà, moi, une femme m'a quitté, ben, j'ai pas du tout envie de me remettre en couple avec une autre femme comme si c'était facile à faire. De fait, ça n'est pas facile, c'est douloureux, ça fait très mal. Et donc, j'achète une poupée parce que, à la fois, la poupée me permet de parodier l'homme fort que je suis censée être, puisqu'un homme fort est censé être en compagnie d'une potiche. Ben, regardez, voilà, moi, j'ai ma potiche. Et puis, en même temps, cette potiche, ben, finalement, c'est moi. C'est aussi un miroir qui reflète ma féminité. Et la preuve, hein, c'est que c'est moi qui la maquille, c'est moi qui lui achète ses culottes, ses nuisettes, ses bas, c'est moi qui lui fais les ongles. Et en soignant ma poupée, je me soigne, j'essaye de cicatriser. Et la love doll me permet d'être un homme différent du type d'homme qu'on attend de moi. Donc ça peut être une forme de contre-culture, finalement. De même que les jeunes filles qui consomment des jeux de simulation amoureux japonais se mettent en scène comme des femmes, finalement, capables d'avoir un harem, ce qu'elles appellent les harems renversés, c'est-à-dire, voilà, moi j'ai tant d'amoureux et je me les tape tous les uns après les autres, et c'est moi qui dépense de l'argent pour eux, c'est moi qui ai le pouvoir financier, c'est moi qui, grâce à qui, ces personnages peuvent continuer à exister, parce que dès que j'arrêterai de mettre de l'argent dans le jeu, ben, le jeu va s'arrêter. Donc, c'est moi qui possède la main haute, finalement, sur les hommes. Donc, il y a une forme de renversement des stéréotypes de genre qui est à l'œuvre dans la consommation des produits japonais, qui est assez intéressante.
Mais alors, au-delà des stéréotypes de genre, on observe au Japon et ailleurs, d'ailleurs, une augmentation des personnes qui tombent amoureuses d'objets, voitures, chaises, monuments historiques, etc. Quel est le profil de ces individus ?
Alors, il y a plusieurs approches possibles, hein, pour essayer de comprendre ce phénomène, effectivement, de personnes qui tombent amoureuses de voitures, de valises, du mur de Berlin, etc. Donc, évidemment, la première réponse qui est psychologique, médicale, presque évidente dans les médias, diagnostique l'amour pour du non-humain comme une sorte de trouble comportemental, voire mental. Donc, il s'agit d'une déviance, en termes plus polis, d'une paraphilie qui se décline en variantes à l'infini, donc objectophilie, robophilie, cybersexualité, digisexualité, technofétichisme, etc. Alors, ça me paraît assez révélateur que ce type d'explication réduise l'attachement à n'être qu'une pathologie et, évidemment, pointe du doigt des produits qui sont dénoncés comme des produits addictifs. Les gens qui vivent en couple avec de tels produits sont finalement des victimes d'une société de consommation qui va les pervertir. Donc ça, c'est l'explication psychologisante qui est indissociable de la morale bourgeoise, qui repose sur l'idéal de la responsabilité individuelle et de l'homme auto-entrepreneur de lui-même qui doit donc être pleinement responsable de ses actes. Là, d'une certaine manière, les personnes qui sont amoureuses d'un non-humain sont accusées d'être aliénées, littéralement irresponsables. Alors évidemment, ce type d'analyse, ça apparaît tout de suite quand on le met à plat, c'est très peu satisfaisant. Il y a une autre explication très médiatisée aussi qui est sociologisante. Elle postule que l'attachement pour du non-humain est un mécanisme de défense ou d'adaptation dans un contexte social qui est marqué par le dysfonctionnement. Donc, encore une fois, on est ramené à l'idée d'une maladie qui n'est plus individuelle, mais collective. Une maladie qui peut se ramener donc à la pénurie de mari ou d'épouse, des conditions de vie à deux qui sont trop coercitives et qui finalement détournent les gens des attachements normaux au profit d'attachements anormaux qui sont en fait des réactions de compensation, de frustration, de dépit, de révolte, etc. Alors, ça reflète une part de réalité, mais c'est insuffisant. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est dans l'idée d'un malaise dans la civilisation, et puis surtout, on est dans l'idée que l'attachement n'est que la traduction automatique d'un désajustement structurel entre les valeurs de la société et les moyens qu'elle offre ou pas de réaliser ses rêves. L'objet lui-même n'est qu'un instrument au service d'une stratégie collective. Et finalement, c'est insatisfaisant aussi comme explication, même si c'est en très grande partie vrai. Donc, il y a une troisième explication, qui est une sorte de troisième niveau de lecture, qui est anthropologique, que j'aimerais bien exploiter, explorer avec vous ici. Cette lecture anthropologique, elle présente ceci d'intéressant, qu'elle réfute le caractère dysfonctionnel de l'attachement, mais surtout qu'elle rétablit la part d'agentivité de l'humain, autant que du non-humain. C'est-à-dire, il s'agit de dire, très bien, il y a des humains qui sont amoureux d'objets, mais prenons leur discours au sérieux. C'est-à-dire, ces humains disent l'objet même. Eh bien, pourquoi pas? C'est-à-dire, il s'agit de défendre, en tant qu'anthropologue, l'idée que ce discours-là est à prendre en compte comme un discours légitime. Il y a des humains qui considèrent que des objets les ont séduits, les ont appelés, les ont amenés à s'engager dans une relation avec eux, que ces objets ont donc une conscience et ont une capacité d'amour. Eh bien, pourquoi pas ? Il y a des émotions réelles qui sont en jeu et on peut pas les nier. Et c'est un peu comme les fantômes, hein. J'arrête pas de parler des fantômes. On croit pas aux fantômes. Mais même si on n'y croit pas, le fantôme existe, hein, comme une réalité culturelle. Eh bien, même si on n'y croit pas, l'amour pour les objets existe comme une réalité culturelle qui est d'ailleurs de plus en plus visible. À l'heure actuelle, les médias s'en font les échos. De plus en plus de mariages sont répertoriés à travers le monde avec des chiens, des chats, des chaises, des monuments historiques, une femme a épousé la tour Eiffel, etc. Et pourquoi pas ? Il me semble vraiment essentiel de défendre cette idée que des humains peuvent réellement avoir des rapports avec les choses et que ces rapports font partie de notre mode normal d'être au monde, dans le sens où il y a un spectre large qui va de l'ergonomie attachante d'un iPhone qui caresse la paume de nos mains jusqu'à le fait d'épouser ce iPhone. On est tous dans une sorte d'entre-deux par rapport aux objets, c'est-à-dire qu'on est attaché à eux, non seulement par des liens intellectuels, mais affectifs, érotiques, oniriques, tout est possible. On est capable en tant qu'humain de s'engager avec ce qui nous entoure, suivant de multiples modalités, et que ces modalités sont toutes des modalités intéressantes, parce qu'elles nous permettent toutes de nous ancrer dans le monde phénoménal. On y adhère par nos sens, par le cœur, par les tripes. C'est une manière de mettre en place des ventouses avec ce monde que d'établir des relations qui peuvent devenir éventuellement des relations sentimentales. Voilà, c'est une position qui me paraît intéressante à défendre.
Mais alors, on constate quand même d'une manière générale, et pas qu'au Japon, un peu partout dans le monde, que les modèles amoureux se diversifient. D'après vous, quelle sera la norme dans les décennies à venir ?
C'est là où j'aimerais quand même revenir un tout petit peu sur ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire ce qu'on pourrait interpréter comme un appel à la tolérance n'en est pas un. C'est-à-dire que si d'une part, en tant qu'anthropologue, j'explique que l'amour pour du non-humain est quelque chose de naturel, de normal, etc., je me méfie en même temps de ce à quoi souvent on ramène cet appel à accepter les émotions positives qui sont engagées avec des choses. Il y a beaucoup de personnes qui revendiquent le statut d'objectophile, par exemple, au même titre, disent-ils, que les homosexuels, les hétéros, les LGBTQI, etc. Et donc, ils reprennent à leur compte cette idée que finalement, il n'y a que des catégories, plein d'orientations sexuelles dans le monde, et que toutes sont valables, etc. En fait, la stratégie discursive de ces gens ne saurait tromper personne. Ils parlent d'un amour exclusif et de mariage romantique, et ils dénigrent les fétichistes qui sont à leurs yeux des pervers, car, disent-ils, les fétichistes abusent des objets qu'ils utilisent comme instrument masturbatoire. Donc, ce faisant, non seulement ils reproduisent les jugements moraux et les clichés qu'ils prétendent combattre, mais ils adhèrent à un système qui place la monogamie conjugale au sommet de la hiérarchie dans l'ordre des désirs. Et pire encore, sous couvert de lutter contre un discours médical, qui est celui des catégories nosographiques, ils en perpétuent la logique, car ils inventent eux-mêmes des étiquettes nouvelles. Donc, par exemple, ceux qui se désignent objets sexuels ou objectophiles, se divisent en mécasexuels, c'est-à-dire amants ou amoureux d'engins de véhicules. D'autres se rallient à l'étendard des mobiliers sexuels, amants ou amants de meubles et de luminaires, etc. Donc, on assiste à une prolifération de nouvelles étiquettes qui s'accompagne d'une prolifération de nouvelles pratiques amoureuses et donc de discours identitaires qui renforcent l'idée que la sexualité n'est pas quelque chose que l'on fait, mais quelque chose que l'on est, et puis que l'on est de naissance, et que l'on est de façon absolue et strictement délimitée, etc. Donc finalement, ils reprennent cette histoire du 19e siècle de conduites qui étaient auparavant diaboliques, qui ont été requalifiées en identité sexuelle par les médecins, et qui ont fait que l'acte sexuel est devenu une orientation constitutive de l'être. Ça, c'est vraiment problématique. Ils libéralisent les déviances qu'ils traitent comme de simples variantes à classer, et ce faisant, ils contribuent à véhiculer cette idée que voilà, tout est possible dans ce monde à condition de se ranger dans la bonne case. Et ça me paraît extrêmement limité. C'est-à-dire que on s'enferme, on s'assigne soi-même à ne pouvoir désirer qu'une seule catégorie de partenaires. on s'enferme soi-même dans un périmètre amoureux qui est vraiment, vraiment minuscule, et ce faisant, on apporte de l'eau au moulin des ennemis, des gens qui disent « ah mais c'est très dangereux », ça veut dire que si des gens tombent amoureux d'objets, c'est la fin du genre humain. Et finalement, ils contribuent à renforcer cette idée que oui, c'est véritablement dangereux, parce que s'ils sont amoureux d'objets, ils vont pas pouvoir être amoureux d'humains, alors qu'en fait, c'est faux. Je veux dire, Kinsey l'a bien montré. Hétéro 100%, ça n'existe pas plus que homo 100%. Aimer un objet, ça ne veut pas dire qu'on l'aime à 100%, ça veut dire qu'on l'aime autant qu'on pourrait aimer d'autres humains, qu'on pourrait être SM, qu'on pourrait être fétichiste, etc. Donc, ils réclament le droit d'exister au nom de valeurs qui sont empruntées à un ordre qui est hétéronormatif. Ils reprennent à leur compte l'idée que les valeurs positives, ce sont des valeurs bourgeoises de mariage d'amour, de relations consensuelles et exclusives, etc. Et ils vont jusqu'à condamner le plaisir comme s'il s'agissait d'un crime odieux, accusant les fétichistes d'instrumentaliser les objets qui transforment en sextoy, comme s'il était vraiment ignoble de prendre son pied avec des objets. Donc finalement, ils reconduisent l'idée du péché, le péché de chair. Ils reconduisent les valeurs morales qui condamnent le plaisir pris gratuitement. Donc voilà, c'est tout ce discours en fait des personnes qui aiment les objets me paraît extrêmement dangereux, puisque il reproduit des jugements moraux et des clichés.
Agnès Jgar, je rappelle que vous êtes anthropologue, membre du groupe de recherche MTech pour Emotional Technologies à l'European Research Council. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dans l'atome de savoir. Restez avec nous, car c'est l'heure de la chronique de Simon. Alors, comment progresse la science ? De qui vas-tu nous parler, Simon ?
On va aborder Gaston Bachelard, philosophe français du XXe siècle, épistémologue, qui s'est aussi beaucoup intéressé à la psychanalyse. L'épistémologie, c'est l'étude des sciences et de la production des connaissances. Et en 1938, Gaston Bachelard publie « La formation de l'esprit scientifique », un essai de philosophie, d'épistémologie et d'histoire des sciences, dans lequel il aborde notamment la question du progrès scientifique. La thèse de Bachelard, c'est que ce progrès se fait par une série de ruptures qui permettent de dépasser ce qu'il appelle des obstacles épistémologiques. Il en nomme plusieurs, mais il y en a trois qui me paraissent vraiment importants.
Quelle est la première rupture ?
Eh bien, la science doit d'abord rompre avec l'expérience concrète, réelle, immédiate. Autrement dit, on ne fait pas de science si on se contente d'observer avec nos yeux nus, ou nos lunettes pour ma part. Si je lance une pierre, un micro et une feuille, que je regarde leur trajectoire et que j'affirme à partir de ça « tous les corps tombent », je ne suis pas en train d'énoncer la loi de la chute des corps, loin de là. Souvent même, la science, pour progresser, doit contredire l'expérience commune. Elle est contre-intuitive. Pour énoncer sa loi sur la chute des corps, Galilée a ainsi dû aller au-delà de ce que son expérience immédiate lui offrait.
Bon, rupture avec les cinq sens et la vie quotidienne, ce n'est pas nouveau. Est-ce que Bachelard va plus loin ?
Oui, il n'a énoncé là que la première rupture que doit faire le scientifique. Mais il en est une deuxième qui la suit de près, et qui est déjà un peu plus nouvelle. Au début du chapitre 2 de son ouvrage, je rappelle le titre, « La formation de l'esprit scientifique », Bachelard écrit « L'esprit scientifique doit se former contre la nature ». Donc là, il n'est pas seulement en train de dire « contre l'expérience qu'on fait de la nature, contre notre observation des phénomènes naturels ». Non, non, il dit « contre la nature ». Qu'est-ce qu'il entend par là ? Il veut dire que le scientifique ne peut progresser que s'il se détache de la nature. Et ça implique notamment d'imiter les phénomènes naturels, parce que c'est ça qu'on veut comprendre, mais de les imiter en recréant les conditions, le plus souvent en laboratoire. Autrement dit, la science, selon Bachelard, sort de la nature pour mieux la comprendre. Ce n'est que comme cela qu'on peut passer de ce qu'il appelle la variété naturelle à la variation scientifique. La variété naturelle, ce sont les différents phénomènes plus ou moins similaires qu'on peut observer, ressentir dans la nature. Mais la variation scientifique, elle, consiste à modifier légèrement les conditions de possibilité d'un phénomène pour comprendre comment celui-ci évolue. Lorsqu'on passe de la variété à la variation, on fait œuvre de scientifique. Et la conséquence de ça, selon Bachelard, c'est qu'au centre du progrès scientifique, on trouve le laboratoire et donc les instruments techniques qui y sont utilisés et qui permettent ces variations des conditions d'apparition d'un phénomène. Le progrès de la science passe donc, selon le philosophe, par un progrès des instruments techniques.
Ça, c'était la deuxième rupture, la rupture avec la nature elle-même, et tu disais qu'il y en avait trois.
Oui, tout à fait. Jusque-là, on a compris que les sciences rompent avec l'expérience immédiate du monde. Ensuite, elles n'étudient pas l'objet naturel lui-même, mais sa reproduction en laboratoire. Mais pour Bachelard, ces deux ruptures ne suffisent pas au progrès de la science. Il faut aussi que la science rompe avec elle-même. Et alors, cette idée un peu choc, on peut mieux l'expliquer. Il entend deux choses par là. La première, c'est que, notamment avec le développement de l'instruction publique, bien souvent les lois scientifiques sont devenues des espèces de connaissances générales vagues. Bachelard parle d'une science enseignée qui est, je cite, « assez correcte », surtout aujourd'hui par rapport à il y a 200 ans, mais qui a le défaut majeur à ses yeux de figer la pensée du scientifique. La science doit évoluer en revenant sur ses propres lois, en les précisant, en leur faisant subir de nouvelles expériences permises par l'évolution des instruments techniques. Bref, si on fige des lois scientifiques en connaissance générale, on se prive de la possibilité d'y trouver des failles nouvelles. Et ça, c'est le deuxième aspect pour Bachelard, de cette idée que la science doit rompre avec elle-même. Il montre qu'au XVIIIe siècle, il y avait déjà des expériences, des scientifiques méthodiques, sérieux. Mais la différence avec le siècle suivant, le XIXe, selon lui, se situe dans l'utilisation de l'abstraction. La science progresse quand elle quitte le domaine du concret, et même, temporairement, le domaine des expériences en laboratoire, pour réfléchir aux phénomènes dans une démarche abstraite, c'est-à-dire ultimement mathématiques. Bachelard donne l'exemple de la science électrique. À la fin du XVIIIe siècle, on étudiait l'électricité en faisant plein d'expériences pour en trouver les différentes caractéristiques. Et ce n'était pas complètement idiot, même si ça nous paraît farfelu avec le recul. Par exemple, il y a eu des expériences dans le galvanisme, un courant scientifique inspiré par Galvani, qui consistait à faire passer de petites décharges d'une même pile à travers du lait, du vinaigre, de la bière et même de l'urine, pour voir quel goût pouvait avoir le courant électrique. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il pensait que l'électricité était une sorte de gaz, d'émanation, et il cherchait à en dégager des propriétés similaires aux autres objets scientifiques qu'il connaissait déjà. Mais une telle approche est très insuffisante, notamment parce qu'elle ne s'extrait pas de l'état de la science à un moment donné. Elle n'envisage pas de nouvelles explications face à un phénomène pourtant totalement nouveau. Si bien qu'en termes de connaissances, note Bachelard, il y a une différence majeure entre cette approche et celle, quelques décennies plus tard, de Georg Ohm, qui a mis en place ce qu'on appelle la loi d'Ohm, qui relie trois concepts, la tension, l'intensité et la résistance, dans une même loi abstraite, une équation mathématique. La loi d'Ohm est encore aujourd'hui absolument fondamentale, elle est une des bases de l'électronique moderne. C'est en faisant rupture avec ses prédécesseurs qu'un scientifique peut acquérir de nouvelles connaissances.
Pour résumer, comment progresse la science ?
Eh bien, selon Bachelard, la science progresse lorsqu'elle rompt avec le phénomène immédiat, la variété naturelle, le concret. Elle progresse lorsqu'elle entre dans la sphère du phénomène préparé, encadré, la sphère de la variation technique, la sphère, en somme, de l'abstraction mathématique.
Merci Simon, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez nous écouter et nous réécouter sur Spotify et radiocampusparis.org et même nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons un compte Twitter et Instagram. Remerciements aussi à toute l'équipe de l'Atome de Savoir, Johanna Blin, Jade Adil, Vadim Yelkin, Simon Veil et Guillaume Péter. L'Atome de Savoir revient le 19 novembre à 18h sur Radio Campus Paris pour une émission spéciale dans le cadre du Festival des Idées en direct de la Bellevilloise dans le 20e arrondissement. Alors à très vite, en attendant restez curieux et portez-vous bien.